Parlons de l'actualité Linux et open source de la semaine dernière. De nombreux développements intéressants sont en cours. Commençons par Ubuntu et sa migration vers les utilitaires Rust dans la version 25.10. Canonical prévoit de poursuivre la transition vers les utilitaires Rust. Ainsi, avec Ubuntu 25.10, il est prévu de passer des nouveaux utilitaires traditionnels à des utilitaires Rust, afin de disposer d'outils système plus modernes et potentiellement plus sûrs. Ce changement sera testé avant Ubuntu 26.04, leur version de support à long terme. Canonical a cependant des solutions de repli. Si les utilitaires Rust ne fonctionnent pas, vous pouvez toujours vous rabattre sur les utilitaires GNU Rust. Le problème, c'est que les utilitaires Rust sont plus volumineux que leurs homologues GNU, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la taille des images, notamment pour les conteneurs Docker. Mais la migration sera un processus complexe. Comme mentionné ici, la migration des utilitaires principaux vers un nouveau paquet est une tâche ardue, car il s'agit d'un paquet central qui a une exigence. Premièrement, il doit fonctionner avec des fichiers simplement décompressés et ne doit disparaître à aucun moment. Deuxièmement, il ne doit pas entrer en conflit avec d'autres paquets et fichiers essentiels fournis lors de l'amorçage, il se contente de les extraire, puis effectue les décompressions appropriées. La présence des mêmes fichiers dans plusieurs paquets entraînerait des résultats incertains. Il cite également des travaux liés à Debian. Debian travaille sur le même sujet, mais à l'opposé, à savoir la prise en charge de Toybox et Busybox comme fournisseurs alternatifs des fonctionnalités des utilitaires principaux pour fournir des images minimales plus petites. Ce schéma a été prouvé comme efficace lors de leurs expérimentations. Il s'agit d'une avancée cruciale vers l'amélioration des utilitaires Linux grâce à Rust, du moins c'est l'idée ici. Avec Ubuntu, son influence et le nombre d'utilisateurs qui l'utilisent, cela pourrait inciter d'autres distributions à adopter les utilitaires principaux et le code Rust à l'avenir. C'est une étape importante vers l'utilisation de Rust dans l'écosystème Linux, car la question de savoir s'il faut ou non conserver le C dans le noyau Linux est un sujet de discussion important. Il semble que les distributions continuent d'essayer d'utiliser Rust dans leurs environnements. Nous verrons comment la migration se déroulera pour la version 25.10. Mais passons maintenant à un bug bizarre qui ralentissait les temps de démarrage de plus de 10 fois. FreeTip a implémenté 3 correctifs qui vont considérablement améliorer les temps de démarrage lors du chargement de police avec des fonctionnalités OpenTip complexes. Prenons l'exemple d'Aerial TTF. Auparavant, FreeTip était ralenti par un code inefficace qui appelait une fonction, comme celle citée ici, 66 954 fois lors du chargement de la police aerial.ttf. Cela augmentait considérablement le temps de démarrage, jusqu'à un facteur 10, ce qui était inacceptable. Bien sûr, ces derniers correctifs remplacent cet algorithme lent par une approche de bas niveau plus efficace, qui réduira considérablement le temps de démarrage lors de la gestion des formes de glyphes alternatives des polices. Comme indiqué ici, le nouvel algorithme utilise une approche complètement différente, plus bas niveau. Il ne fonctionne plus avec les fonctionnalités OpenTip, mais avec les recherches OpenTip. Il s'appuie sur une fonction HBOT Layout Lookup Get Glyph Alternative. C'est un peu long. Remplacer la récursivité par une simple boucle permet également de ramener le temps de démarrage à un niveau acceptable de quelques pourcents. Cette nouvelle approche a pour effet secondaire de détecter davantage de formes alternatives. L'ancien code ne gérait pas correctement les fonctionnalités spécifiques au script. Pour une meilleure lisibilité, ce commis ajoute simplement du nouveau code. Il s'agit d'une correction cruciale pour améliorer les performances des types libres, largement utilisés pour le rendu de texte dans diverses applications. Ce changement bénéficiera à tous les utilisateurs Linux utilisant des applications basées sur des types libres. Espérons qu'ils gagneront en réactivité, et je suis heureux que ce bug ait été détecté et corrigé. FreeType étant une bibliothèque fondamentale, tous les environnements et applications de bureau l'utilisent. Ainsi, des composants comme GNOME et KDE pourraient être affectés. Libra, Office, Inkscape, GIMP, toutes sortes de navigateurs web, les systèmes d'exploitation des applications que nous utilisons au quotidien. Là encore, il s'agit d'une inefficacité significative découverte avec l'ancien algorithme des types libres et qui empêchait la récursivité lors du chargement de certaines polices. Ce sera un véritable avantage. En parlant d'avantages, abonnez-vous ci-dessous pour plus de vidéos Linux comme celle-ci. YouTube peut être capricieux et vous ne voudriez pas en manquer une autre. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour moi. Voyons comment Valky va remplacer Reus dans le dépôt supplémentaire sous Arch Linux. Arch Linux remplace Redus, un système de stockage de données clés valeurs en mémoire largement utilisé pour la mise en cache et la gestion des sessions d'analyse en temps réel, etc. Le point important ici est que Reus transfère sa licence de BSD vers RSA LV2 et SPLV1. Valky a été soutenu par la Fondation Linux et par divers fournisseurs de technologies et prendra désormais la place de Reus dans le dépôt supplémentaire d'Arch. Une période de transition de 2 semaines est prévue, et Reus ne sera plus mis à jour dans le dépôt supplémentaire d'AUR. Les utilisateurs d'Arch sont encouragés à passer à Valky. Vous devriez donc y réfléchir. Valky est un stockage de données clés valeur haute performance et remplacera Redu dans le dépôt supplémentaire. Ce changement est dû à la modification de la clause de licence de Redu, passant de la clause 3$ BAM et 1 aux deux clauses déjà évoquées, RSAV2 et SSPV1. Il y a donc une période de 14 jours après la publication de cet article, soit le 17 avril. Nous approchons de cette date. Les responsables des paquets Arch Linux prévoient de maintenir la disponibilité du paquet Reus pendant environ 14 jours à compter de la date de publication de cet article afin de permettre une transition en douceur vers Ali. Ce qui, honnêtement, n'est pas très long, mais c'est une transition importante, car elle reflète une tendance croissante de l'écosystème Linux à s'éloigner des nouvelles licences restrictives. Il est clair qu'Arch Linux s'aligne sur les principes de l'open source tout en veillant à la compatibilité pour ses utilisateurs. Et puisque des outils comme Reus modifient leurs licences, il est judicieux pour Arch Linux de réfléchir à ce type de sujet, où les licences open source sont plus importantes que l'outil lui-même. C'est une avancée significative pour Arch Linux, car les licences ont été maintes fois évoquées au sein de la communauté Linux et il est essentiel pour beaucoup d'utiliser des licences libres et open source. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Êtes-vous surpris? Archer Linux fait-il le bon choix? Et en parlant de surprise, Fedora 43 a annoncé l'abandon des paquets GNOME X11 pour Wandong GNOME. L'idée est que Fedora 43 prévoit d'abandonner complètement les paquets GNOME X11 et d'en faire une expérience Wandong GNOME d'ici la fin de l'année. Le résumé indique la suppression des paquets GNOME X11 des dépôts Fedora. Tous les utilisateurs de la session GNOME X11 seront migrés vers la session GNOME One. Un événement important, car Fedora vise à simplifier l'expérience de bureau GNOME. La prise en charge de X11 étant obsolète, la session GNOME One est désormais privilégiée, et cette fonctionnalité s'améliore de mois en mois avec l'implémentation et la prise en charge du HDR sur Wayland. Ce changement s'inscrit dans le plan de suppression progressive de X11 par le GNOME en amont de Fedora. On peut maintenant s'attendre à ce que X11 soit complètement supprimé de GNOME dans les versions plus récentes. Ce changement est simplement une façon pour Fedora de s'aligner sur les autres tendances du bureau Linux. Il pousse les autres distributions à adopter Wine par défaut, accélérant ainsi la fin de X11 au profit de ce serveur d'affichage plus moderne et plus performant. Fedora a mentionné que des efforts actifs sont déployés en amont depuis plusieurs années pour éliminer les derniers obstacles à l'expérience utilisateur empêchant l'abandon du code de session X11, et que ce travail sera achevé avec GNOME 48. L'objectif en amont est de l'abandonner pour GNOME 50, puis de le désactiver par défaut à la compilation pour GNOME 49. Il ne reste donc que 2 versions de GNOME pour y parvenir, avec un objectif d'abandon complet de X11 d'ici GNOME 50. Il sera intéressant de voir comment les choses évoluent et s'ils parviennent réellement à supprimer complètement la compilation X11 d'ici GNOME 50. Mais quel est l'intérêt de cette solution? Cela s'inscrit dans la continuité des efforts déployés en amont pour supprimer les sessions X11 de GNOME. Cela nous aligne sur KD Fedora, comme le recommande et soutient le groupe d'intérêt spécial KD Fedora et le groupe de travail Fedora Workstation pour la plateforme graphique One. Fedora passe exclusivement à Wayland sur GNOME, une nouvelle importante. Enfin, je souhaite évoquer les pilotes graphiques basés sur Rust pour Linux. Nvidia a publié les premiers correctifs pour le pilote open source Nova, basé sur Rust. Ce pilote, futur successeur des pilotes Nova, exploitera le GPU ou le système GSP de Nvidia. Ce pilote est actuellement en phase de développement en Rust. Il est compatible avec la série RTX 20 et les GPU plus récents équipés du GSP. Ce dernier correctif s'inscrit dans la continuité de mes précédentes RFC visant à finaliser la première étape du démarrage GSP avec le firmware FWSF-RTS extrait du BIOS sur les appareils en pur. Bien qu'il soit encore loin de permettre au GPU de fonctionner efficacement, il définit la structure de base du pilote sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour poursuivre les prochaines étapes du démarrage GSP et prendre en charge davantage de chipsets. C'est important, car le pilote Nova représente une avancée majeure pour Nvidia, qui rend les pilotes Linux entièrement open source. Il pourrait permettre de remplacer les pilotes nouveaux obsolètes et non maintenus. Bien que ce pilote n'en soit qu'à ses débuts, il est essentiel pour améliorer la prise en charge de Linux par le matériel Nvidia, notamment en open source. Leur volonté de faire fonctionner des choses comme GSP sur les séries 20 et supérieures est passionnante. Nous verrons comment évolue le pilote Nova et si Rust s'avère être le langage le plus adapté. Seul le temps nous le dira. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Nvidia et de son travail sur les pilotes open source Nova. Voilà pour les actualités de la semaine. Il se passe beaucoup de choses intéressantes sous Linux. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner ci-dessous pour ne rien manquer de ce genre d'actualité. Au retour, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de me rejoindre dans une super communauté sur Discord. À bientôt pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé. Linux peut être difficile à comprendre, mais je reprends les termes, commande des sujets les plus courants et je les décompose en documents faciles à lire, comprenant des termes Linux, des fiches, une liste de contrôle, un aide-mémoire et un guide pratique. Et si vous êtes prêt à améliorer votre expérience et vos connaissances Linux, rendez-vous sur savinik.com dès maintenant pour accéder à ces fiches.